Guylaine Denis. Jeudi gris de novembre, 27 novembre 2025, novembre qui tire à sa fin. À l'émission aujourd'hui, l'autrice Alexis Morin qui viendra nous présenter son plus récent livre, un roman, une saga de autour de 400 pages que j'ai terminée hier soir et j'avoue que j'ai eu peur. Il y a des passages plutôt angoissants. C'est très bien écrit. Alors Alexis Morin sera avec nous dans la dernière demi-heure de cette émission. Yvan Deslauriers sera avec nous vers les 10 heures pour partager avec nous, avec vous, chers auditeurs et auditrices, une chronique sur le CIVA. Le CIVA, qui est le Centre d'intégration à la vie active, qui offre une programmation de sport adapté, d'art adapté, des activités jeunesse et du plein air adapté. Et puis, il y a Monique qui est au bout du fil. Bonjour, Monique.
Bonjour, Hélène.
Monique, votre sujet du jour concerne les universitaires et les genres aussi qui fréquentent les universités.
Exactement. Alors, oui, universitaires, mais aussi cycle supérieur, si on peut dire.
Oui.
Alors, il semblerait que, les femmes l'emportent sur les hommes au niveau des statistiques. On peut se poser la question pourquoi. Mm-hmm. Et bien, il y a une professeure qui s'appelle Katia Papi qui s'intéresse à cette question et qui nous donne quelques pistes de réponse. On le voit maintenant, Hélène, dans différents domaines, que ce soit en médecine, médecine dentaire, optométrie, la proportion des femmes à l'université, c'est presque 60% pour 40% pour les hommes. Hein.
Oui, c'est quand même considérable. Merci,
oui.
Monique, d'être avec nous en cette journée du jeudi. Et puis, en face de moi, évidemment, c'est Mathieu Tessier. Mathieu, j'ai préparé une chanson de Philippe B. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Toujours.
On y va.
Les nuages là-bas n'annoncent rien de bon. Ramasse ton barda, on rentre à la maison. Mais nous restons ici. Il fait beau et la vie est si courte. On n'a pas le loisir de la vivre en attendant le pire. L'hirondelle là-bas est de mauvaise augure. Elle vole trop bas, c'est la fin, j'en suis sûr. Mais non, ne t'en fais pas. Les tempêtes, ça va et ça vient. Le beau temps revient sans que le ciel ne tombe sur la terre. Attache tes cheveux, les vents se lèvent et tu n'y vois rien. Quand ils sont dans tes yeux, reste pas loin, tout va bien, mais je sens que s'approche déjà. Les orages, la mort. Le temps change et le vent souffle du mauvais bord. Et une ombre s'étend sur le monde qui dort. Où je sais que le ciel est fâché, qu'il faut rester fort. Oui, mais c'est encore mieux de se laisser plier. Attache tes cheveux, le vent se lève et tu n'y vois rien. Quand ils sont dans tes yeux, reste pas loin, prends ma main. Oui, je sens que s'approche déjà les orages là-bas.
Les orages là-bas, une chanson de Philippe B.
À la une de la presse plus, Montréal-Nord détruit sans préavis. Un campement de sans-abri toléré ouvertement par l'arrondissement a été démantelé avec de la machinerie lourde sans crier gare. Ses occupants y ont retrouvé leurs quelques possessions brisées dans un amas. Mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu être couché dans ma tente quand c'est arrivé, dit l'un d'eux. Alors, c'est un texte de Chloé Bourquin et de William Thériault et des photos de Charles-William Pelletier qui accompagnent ce reportage. Des employés municipaux au volant de camions et de pelleteuses ont détruit sans préavis un campement d'itinérants. Ça s'est passé lundi soir à Montréal-Nord. J'aurais pu être couché dans ma tente quand c'est arrivé. C'est ce que dénonce André, un sans-abri encore sous le choc. L'arrondissement promet d'enquêter sur cette situation malheureuse, un monceau d'objets cassés, jetés pêle-mêle, gis à terre sur un terrain vague derrière un Canadian Tire, des chariots renversés, des caisses et des seaux vidés de leur contenu, des palettes de bois brisées, des vêtements et des sacs de couchage recouverts de boue, des vélos tordus. Le sol est recouvert d'une boue épaisse qui colle aux chaussures. Les dents des pelleteuses et les allées et venues des camions ont laissé de profonds sillons qui se sont remplis d'eau avec la pluie. Et plus loin dans le texte, on écrit que du côté de l'arrondissement de Montréal-Nord, on confirme que le campement était toléré, du moins temporairement, puisqu'il ne posait pas de problème de cohabitation avec le voisinage. Ce n'était pas du tout du démantèlement, affirme James Osne, attaché politique au cabinet de la mairesse d'arrondissement, Christine Black. Les cols bleus étaient censés venir ramasser des déchets laissés en marge du campement par les sans-abri. L'employé en question n'a tout simplement pas ramassé le bon amas d'objets, tel que convenu avec les personnes qui occupent temporairement le site et les organismes communautaires, indique-t-il. Nous étions allés à la rencontre de ces sans-abri le 12 novembre dernier. Après la publication de l'article dans la presse, un donateur anonyme avait offert à René Marquis pour Noël, le foyer de camping portatif dont il rêvait. « J'étais vraiment content », souffle-t-il. Il n'a pas réussi à remettre la main dessus au milieu des décombres. Il précise qu'habituellement, lors d'un démantèlement à la suite d'un préavis envoyé plusieurs jours avant, les campeurs peuvent disposer eux-mêmes leurs affaires dans un conteneur, mais cette fois, ils ont tout perdu. À la une du Journal de Montréal, « Fling Flang au PLQ », L'UPAC rencontre Marois Risky. C'est donc la saga qui se poursuit, si je peux me permettre. Selon nos informations, écrivent Jean-Louis Fortin et Félix Séguin, deux enquêteurs de l'unité permanente anticorruption UPAC se sont rendus en matinée au domicile de Mme Risky pour noter ce qu'elle avait à dénoncer. Dimanche, sur le plateau de Tout le monde en parle à Radio-Canada, Pablo Rodriguez a indiqué que Marois Risky lui avait parlé d'un fling-flang en lien avec Ottawa lors d'une rencontre privée entre elle et lui la semaine dernière. Il a suspendu Mme Risky du caucus libéral mardi dernier après que cette dernière eut renvoyé la directrice du cabinet du PLQ, Geneviève Hinze, sans le prévenir. Depuis, Geneviève Hinze poursuit Mme Risky pour 500 000 $ pour congédiement abusif, invoquant qu'elle ignore les manquements allégués qui aurait mené à sa fin d'emploi. En fin de journée hier, c'était silence radio du côté de Mme Risky, qui est très prudente dans ses déclarations publiques depuis le début de cette saga. Ces démarches de l'UPAC s'ajoutent à une série d'autres enquêtes déclenchées en lien avec la crise qui secoue le PLQ. Élections Québec aussi, connue sous le vocable directeur général des élections du Québec, a en sa possession des textos échangés entre deux personnes qui travaillaient dans le camp de Pablo Rodriguez lors de la course à la chefferie du printemps, comme l'a révélé notre bureau d'enquête. Ces textos laissent entendre que des membres qui votaient pour M. Rodriguez auraient été récompensés avec de l'argent. Le DGEQ enquête aussi sur une discussion entre Marois Risky et le député du Parti libéral du Canada, Faisal El-Khoury, lors de l'inauguration de la nouvelle antenne du REM le 14 novembre, révélait la presse hier matin. M. El-Khoury détenait un certificat de sollicitation et amassait des dons lors de la course à la chefferie du PLQ. La commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale a été contactée lundi par le PLQ, qui souhaite obtenir des clarifications en lien avec la politique d'utilisation de fonds parlementaires, ainsi que les activités partisanes du parti et de son chef. Sans oublier l'enquête externe commandée par le PLQ Alex juge Jacques R. Fournier afin de faire la lumière sur les allégations graves, pour reprendre les mots de M. Rodriguez, contenus dans les textos révélés par notre bureau d'enquête. À la une du Devoir maintenant, un incendie meurtrier à Hong Kong, des images absolument saisissantes. La tour infernale, les tours infernales, devrais-je dire. Les autorités de Hong Kong ont arrêté trois hommes soupçonnés d'homicide involontaire après l'incendie qui a ravagé un vaste complexe immobilier faisant au moins 44 morts. J'ai entendu tantôt qu'on était rendu à 55 morts et le bilan s'alourdit. Des centaines d'habitants ont été évacués alors que les flammes se propageaient à travers sept immeubles d'habitation situés dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires. Mercredi soir, plus de 270 personnes manquaient toujours à l'appel. Ensuite, autre titre à la une du Devoir, le Collège des médecins contre l'idée de légiférer sur l'avortement. L'Ordre ajoute sa voix à celle du barreau et indique que Québec mettrait ce droit en péril. Texte de Marie-Michèle Sioui. Après le barreau, le Collège des médecins du Québec sonne aussi l'alarme en légiférant sur l'avortement. Le gouvernement Legault risque de faire plus de mal que de bien en fragilisant un droit actuellement bien protégé et en offrant un levier au mouvement anti-choix. La vente de gratteux chez Costco préoccupe. Le succès qu'ils engendrent inquiète des expertes en dépendance qui dénoncent la banalisation des jeux de hasard. Les billets à gratter de l'Auto-Québec ont fait leur entrée chez Costco il y a quelques semaines, suscitant un vif intérêt chez les consommateurs. Ce succès commercial inquiète des expertes en dépendance qui dénoncent la banalisation des jeux de hasard et d'argent, d'autant qu'ils sont vendus par l'enseigne comme de simples produits de consommation. Chaque fois qu'on ajoute un point de vente, c'est une mauvaise nouvelle. Plus l'exposition aux jeux est grande, plus le risque d'y succomber augmente, surtout chez les personnes vulnérables, déplore Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, un centre montréalais de traitement des dépendances. Et on parle aussi de cinéma à la une du Devoir, Jean Dujardin. En pleine conscience, l'acteur revient sur la dimension personnelle que revêt cette seconde adaptation du classique de la science-fiction, L'homme qui rétrécit. François Lévesque nous en parle. Pat it up, 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 pat it up.
good. You got me good.
Une nouveauté de Dominique Fils-Aimé qui s'appelle Going Home.
Merci beaucoup, Mathieu. Monique Kerouac, c'est à vous. Alors, la grande question du jour, il y a notablement moins d'hommes que de femmes à l'université. Est-ce une fatalité?
Mm-hmm. Alors, c'est un article de Katia Papi, qui est professeure à l'Université TELUC, qui fait donc de la formation à distance. Elle nous dit qu'alors que le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec vient de lancer la campagne « Pour toi, plus que tu crois » sur les réseaux sociaux numériques dans l'espoir d'attirer davantage de jeunes hommes dans l'enseignement supérieur, ben, il semble pertinent de revenir sur le constat que, ben, y a moins d'hommes que de femmes sur les bancs de l'université. Professeur, donc, comme je le disais à TELUC, Katia Papi s'est penchée ces dernières années avec Dominique Tétrault, qui est coordonnateur des statistiques et des indicateurs de gestion au ministère de l'Enseignement supérieur du Québec sur les données disponibles au Québec concernant la représentativité des hommes dans l'enseignement supérieur et l'éducation.
Monique, c'est Dominique Thériault.
J'ai dit quoi?
Tétrault. Oui.
Ah bon? Peut-être parce que j'ai une copine qui s'appelle Tétrault.
Peut-être.
J'ai tendance comme ça. C'est des moniquiades.
Je retiens. Alors, c'est cute.
Oui. D'abord, un constat général. Alors, bien que dans l'histoire du 20e siècle, les femmes aient accédé plus tardivement que les hommes à l'enseignement supérieur, un même constat est fait dans la plupart des pays occidentaux. Bien, au 21e siècle, les femmes sont davantage diplômées de l'enseignement supérieur que les hommes. Cette situation est notamment mise en évidence des deux côtés de l'Atlantique. En France, on recense 54 % de femmes diplômées contre 47 % d'hommes parmi les 25-34 ans, tandis qu'au Québec, on compte 62,6 % de femmes et 51,5 % d'hommes, en incluant le collégial, parmi les 25-64 ans. Bon, c'est pas la même tranche d'âge, mais c'est quand même des données révélateurs. Et j'ai trouvé, Hélène, un article de la presse qui date de 2023 où on disait que l'écart de diplomation était 12,7% parmi les 25-34 ans, soit 29,3% chez les hommes et 42% chez les femmes. Alors, c'est assez...
Un grand écart.
C'est un grand écart. Alors, le taux de diplomation que je mentionnais précédemment, ben, reflète une fréquentation universitaire de plus en plus féminisée. On le voit dans les facultés de médecine dentaire, d'optométrie, ayant été professionnelle à l'Université de Montréal, j'ai vu ces écarts vraiment se creuser.
Ah oui.
L'écart constaté entre les garçons et les femmes et les filles trouve son origine dès les premiers instants de la vie. À partir de leur entrée dans le système scolaire, on constate ainsi que les garçons accumulent plus de retard que les filles et sont donc proportionnellement de moins en moins nombreux, quel que soit le milieu socio-économique, à fréquenter le palier scolaire suivant, soit après le primaire, le secondaire, puis le cégep et finalement l'université. Si l'on admet généralement que ces écarts peuvent être en partie attribués à la plus rapide maturité des filles, force est néanmoins de remarquer qu'il varie selon les milieux. En effet, au Québec, comme dans d'autres sociétés, le milieu socio-économique dans lequel évolue un garçon semble avoir une plus grande influence sur son parcours que sur celui d'une fille. Cet écart s'explique entre autres par des différences de socialisation plus marquées. Tandis que dans tous les milieux socio-économiques, les filles sont encouragées à être studieuses, dans les milieux les plus défavorisés, les garçons ont souvent des modèles de pères valorisant davantage des attributs stéréotypiques de la masculinité, comme la force physique ou l'habileté sportive, la réussite éducative étant même parfois dépréciée. Il y a des recherches américaines qui mettent en lumière que lorsque le père a un haut niveau d'études, les écarts entre garçons et filles diminuent en raison du milieu plus favorable à l'apprentissage et du modèle concret de réussite éducative parentale. Comme les différences de milieux socio-économiques tendent à se cumuler avec l'inscription dans le réseau public ou privé, on comprend que les chances de réussite sont susceptibles de varier fortement selon le genre et le milieu familial et scolaire dans lequel évoluent les enfants. C'est notamment ce que révèlent année après année les résultats aux épreuves ministérielles qui font ressortir que les garçons en arrachant toujours davantage en français que les filles, mais avec des taux de réussite nettement supérieurs dans le privé que dans le public. Les garçons sont pour ces raisons moins nombreux à avoir le diplôme d'enseignement secondaire nécessaire pour entrer dans l'enseignement supérieur. Ils sont également plus susceptibles d'être attirés par certains métiers ne nécessitant pas de diplôme universitaire. On peut penser à certains métiers de l'industrie, de la construction ou des mines pour lesquels, en plus, la rémunération est plus élevée que celle de professions de niveau équivalent plus féminisé, comme ceux relatifs aux soins de la personne ou à la garde d'enfants. Le fait que l'écart salarial en défaveur des femmes diminue au fur et à mesure que l'on monte dans le niveau d'études peut aussi expliquer qu'elles soient plus nombreuses à fréquenter l'université. L'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire ou supérieur offre un gain salarial plus important pour les femmes que pour les hommes. Ces dernières gagnent, par exemple, 36,9% de plus en ayant un diplôme de premier cycle universitaire qu'un diplôme collégial, tandis que l'écart est de 30,3% pour les hommes. Au-delà des facteurs biologiques liés au développement quelque peu différencié des garçons et des filles, notamment concernant leur maturité, il apparaît clairement que les facteurs d'ordre sociologique jouent un rôle prédominant dans les écarts de réussite et parcours scolaire des garçons et des filles. Aussi semble-t-il opportun de généraliser des mesures pour soutenir les garçons dès le plus jeune âge, tout particulièrement concernant l'apprentissage de la lecture. Les résultats de plusieurs recherches font ressortir l'importance des modèles masculins dans la scolarité. Les initiatives comme Lire avec Fiston pourraient donc servir de source d'inspiration. J'ai été voir un peu ce qu'était cette initiative Hélène Lire avec Fiston. Alors c'est très intéressant, c'est un projet de littératie familiale qui favorise la création de trios masculins. Alors papa, Fiston et un étudiant en enseignement, ben ils partagent un temps de lecture et ce à la maison. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à consulter le site École branchée. On y retrouve un article qui date du 22 mai 2022, mais qui nous explique bien quelle est la démarche de cette initiative « Lire avec Fiston ». Alors finalement, ces constats devraient conduire à des réflexions plus profondes concernant l'ensemble de la société. Il semble impératif d'envisager une nouvelle forme scolaire qui réponde mieux à la diversité des élèves, une forme qui favorise l'égalité et surtout qui déconstruise les stéréotypes de genre susceptibles de nuire aussi bien à la scolarité des garçons que de restreindre les orientations universitaires et professionnelles tant des hommes que des femmes. Alors voilà un constat pas très, je trouve, rigolo, mais qui nous invite à une réflexion approfondie justement de notre approche pédagogique.
Merci.
Thank you. déchirer tes voiles. Encore je t'éterre pour éviter les larmes. Tu victimes toujours les mers à la recherche d'un mirage. Dis-moi cent fois le refaire, tu finiras sur quel rivage. Ta tendance au vague, perdre la carte, perdre la carte. Jeu corrosif, trip addictif. Jeu corrosif, trip addictif. Tendance au vague, ta tendance au vague.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Elle se regarde sourire toute seule dans l'éclat des vitrines. La radio dans sa tête joue peut-être un thème de film. Elle a peut-être un rendez-vous, peut-être un amoureux. Et sur le trottoir, elle esquisse un pas de danse ou deux. On cherche tous un sens unique, un feu qui vire au vert. Sous respirer à l'ombre dans le désert, à l'ombre dans le désert. Elle a cueilli des belles nuits au bord d'un terrain. Chez elle, elle a mis le bouquet sur la table. Par la fenêtre ouverte, elle entend klaxonner la ville. Mais le silence de son téléphone est un ami fragile. On cherche tous un sens unique, un feu qui vire au vert. Sous respirer à l'ombre dans le désert. Il a les mains sur le volant, les yeux sur un mirage. Il se demande si elle attend, si elle prend ses messages. Il repense à la fois d'avant, à toutes les autres aussi. De ses essuie-glaces, il voit briller sa nuit. On
cherchent tous un sens unique, un feu qui vire au vert, un oasis sous respirer, à l'ombre dans le désert, à l'ombre dans le désert.
Jolie orchestration, Monsieur Rivard. C'était Michel, de son prénom, à l'ombre dans le désert.
Oui, il a tout pour réussir, cet homme.
Non, il va aller loin.
C'est donc une chanson tirée de son plus récent album, Après, on va où, point d'interrogation, son 10e album solo. Yvan Deslauriers, bonjour.
Bonjour, Hélène Denis.
Yvan, vous avez été attiré par une chronique signée Rose Aimée Autant de Témorin.
Ben, en fait... Oui, j'ai été attiré par ça, ça c'est sûr. Mais le fait que vous me l'ayez envoyé aussi, d'une part. Et d'autre part, c'est que le Centre d'intégration à la vie active était un de nos organismes avec qui on parlait à tous les deux mois lors de l'émission Au quotidien, 5e édition.
Oui, je savais que vous aviez un lien privilégié, d'où mon envie de vous envoyer cette chronique, malgré que je sais que vous êtes toujours à l'affût.
Oui, 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 mais ça fait toujours un petit peu plaisir de voir un article là-dessus, sur un organisme que, avec le temps, on a développé une certaine affection.
Ouais.
Puis d'ailleurs, on parle de la directrice générale qui était la personne avec qui on parlait au téléphone tous les deux mois. Alors, quelque part, c'est un petit peu dans la famille.
C'est peut-être un peu grâce à vous aussi, hein? Qui sait?
Oh, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Alors, c'est un article de Rose Aimée Autant de Témorin qui nous raconte un peu, elle nous raconte une journée comme une autre. En fait, c'est un jour comme un autre, ou presque. Et on va voir pourquoi le « ou presque ». On parle du Centre d'intégration à la vie active. Probablement que je vais avoir une tendance à parler du CIVA, qui est l'acronyme de l'organisme.
Oui, c'est plus facile, plus simple, plus court en tout cas.
Oui. Alors, ça commence par « avant, je ne sortais jamais de chez moi ». Christian est le premier jeune auquel je parle ce matin. C'est Rose Aimée qui nous parle. Je vous avoue que sa réponse à « Pourquoi tu viens jouer ici? » me prend de court. Il fait partie de la quinzaine de joueurs qui forment l'équipe de basketball mini du Centre d'intégration à la vie active, le CIVA. L'organisation montréalaise offre plusieurs ateliers aux personnes en situation de handicap. Parmi eux, chaque samedi, des pratiques sportives réservées aux enfants et aux adolescents. Ce sont souvent des jeunes qui ne peuvent pas être inclus dans les équipes de leur école, précise Marine Gaillard, qui est la directrice générale du CIVA. Comme pour n'importe quel enfant, grâce au sport, ils peuvent développer leur motricité et leur habileté sociale. Dans un monde rarement bâti pour eux, on leur offre un espace pour se dépasser. C'est dans le gymnase de l'école Joseph Charbonneau que Christian Daigneault, qui a 16 ans, est passé de son fauteuil roulant habituel à son fauteuil de basket seul pour la première fois. Son entraîneur lui a dit qu'il était capable d'y arriver sans aide ni planche de transfert. Le joueur en doutait, mais il a effectivement réussi le mouvement en toute autonomie. Christian était fier. Benoît Lemieux, lui, a pleuré. Benoît, c'est le frère d'Antoine, 9 ans. Il l'accompagne à chaque séance. Antoine tripe sur le sport depuis toujours. Il est né avec une paralysie cérébrale et il n'avait jamais participé à des activités sportives organisées. Benoît Lemieux, le père d'Antoine, rajoute « Le basket en fauteuil, pour moi, c'est donc voir mon petit garçon dans sa première équipe. Ça me fait plaisir de le regarder interagir avec les autres et de voir que s'il a de la difficulté, il n'abandonne pas. C'est super inspirant. » Ce serait convenu de parler de résilience ici. Je dois tout de même admettre que je suis renversé par les jeunes qui m'entourent. il y a un ratio inhabituel de sourires par adolescent. Celui de Sarah Getaf, aussi grand que déterminé, vole la vedette. Quand je demande à la joueuse de 13 ans quel est son objectif, elle me répond sans hésiter, les Jeux paralympiques. Son entraîneur y croit. Il m'a parlé d'elle plus tôt. Elle a du potentiel. Christian Lacerra tient à ce que ce soit clair. Les joueurs et joueuses de basketball en fauteuil roulant travaillent fort. Ils transpirent. Il n'y a rien de donné, même si on dit que c'est adapté. Ce qu'il y a de différent, selon l'entraîneur, c'est plutôt l'entraide dont les athlètes font preuve. Tout le monde s'encourage. Sur le terrain, on est là pour se donner une volée, mais à l'extérieur, le partage de connaissances est extraordinaire. Ça, ça existe moins dans le sport debout. Cette solidarité émeut aussi Stéphane Renaud. Le père d'Anakim, 15 ans, a toutefois mis du temps à apprivoiser le sport adapté. C'est que le basketball en fauteuil roulant réunit des participants en situation de handicap et d'autres parfaitement aptes à jouer sur deux pieds. Dans l'équipe du CIVA, par exemple, trois jeunes ne présentent pas de handicap. Au début, j'ai trouvé ça difficile, admet Stéphane Renaud. J'ai fait du sport pas mal dans ma vie et j'avais de la misère à voir Anakim, qu'Anakim ne pouvait pas performer comme les autres. Lui, est-ce qu'il trouvait ça dur? Pas du tout. Il a une attitude de champion. Il est toujours content, qu'importe qui marque un point. C'est un apprentissage pour moi aussi, venir ici. Pendant que les jeunes se livrent à une série d'exercices dans les rires et les cris, de l'autre côté du gymnase, les joueurs de boccia commencent également leur pratique. Puis, vous avez souvent parlé avec, comment il s'appelle? Dominique Tremblay, qui est très, très, très impliqué dans le boccia d'un point de vue international. Mm-hmm. Le boccia, c'est un sport qui ressemble beaucoup à la pétanque. Il permet aux personnes qui vivent avec des limitations sévères de mobilité de s'affronter individuellement, en double ou en équipe. J'aime que ce soit un sport que je puisse faire, répond simplement Jérémy Fiola Fauché, quand je lui demande ce qu'il apprécie de la discipline. La phrase pourrait être triste, mais elle est livrée avec un entrain à faire oublier novembre. Le joueur de 12 ans est ravi d'être ici. Ça paraît. Il me dit qu'il retourne chez lui, moins fatigué, chaque samedi. Son frère, Édouard, 15 ans, est aussi de la partie. Il croit que le boccia gagnerait à être connu parce que tout le monde peut jouer. Si tu as des amis qui ne sont pas en fauteuil roulant et qui veulent jouer avec toi, il y a le boccia. Les gars affrontent aujourd'hui Maïla, qui aime l'esprit d'équipe qu'elle trouve ici, et Andrew, qui apprécie le fait de faire autre chose que des devoirs. Leur entraîneur, Jonathan Manceau, a longtemps accompagné l'athlète Joël Guérette dans des compétitions de haut niveau. Il baigne dans le monde du boccia depuis des années et estime que la jeune génération a une approche plus décomplexée à la pratique. La majorité des adolescents qu'ils guident vivent avec la dystrophie musculaire ou la paralysie cérébrale. Il nous dit ils savent qu'ils vont éventuellement perdre de la force, mais qu'ils vont pouvoir continuer à jouer. Il y a peut-être moins de tabous qu'avant. Les jeunes n'ont pas peur d'essayer de nouvelles choses, et ce qui est beau, c'est que peu importe leur handicap, il y a un sport adapté pour eux. Le 3 décembre, donc en début de semaine prochaine, le mercredi, ce sera la journée internationale des personnes handicapées. C'est un bon moment pour se rappeler qu'en 2022, il y a 3 ans, environ 21% de la population québécoise de 15 ans et plus vivait avec une incapacité. Ça veut dire 1/5 de la population des 15 ans et plus. Le quotidien dont je suis témoin à l'école Joseph Charbonneau est donc celui de plusieurs familles. Il est fait de défis, de jeux, et d'apprentissage. Si le photographe Charles-William Pelletier et moi ressortons du gymnase ému ici, c'est juste un samedi comme un autre.
Ouais.
Alors, c'était le texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin qu'on peut retrouver dans la presse. Il est paru...
Le 19 novembre.
Le 19 novembre, si. Donc, ça vaut... Si on est dans une journée grise de novembre, tiens, gardons ça, c'est pas mal comme aujourd'hui, on lit ce texte-là, puis soudainement, la journée est moins grise.
Le soleil apparaît. Merci.
Ouais.
La chanson Rivière de Virginie B.
Oui, après Philippe B, hein, oui. Qu'on a entendu en ouverture d'émission, Virginie B, vous me le faisiez constater, très cher Mathieu Tessier. Et Virginie B est en Suède en spectacle ce soir ainsi que demain. Et si vous voulez la voir et l'entendre, elle sera le 27 décembre du côté de Québec. Je suis en train de regarder son calendrier. 27 décembre au jardin de l'Hôtel de Ville dans le cadre du festival Kaléidoscope. Voilà pour Virginie B, qui a beaucoup, beaucoup de talent. On y va avec les brèves en compagnie de Monique et Yvan. Monique, une clinique laboratoire sur roues.
Oui, exactement. Alors, les professeurs, chercheurs, Hélène, universitaires ne sont pas toujours dans leur tour d'ivoire avec cette nouvelle clinique laboratoire. Précisons d'abord que depuis les années 1970, les maladies chroniques liées à la nutrition, soit diabète, obésité, troubles métaboliques, ont connu une forte progression, et ce, surtout chez les jeunes les plus vulnérables. Or, pour bien des familles, l'accès à des soins spécialisés et à la recherche demeure limité, ce qui a pour effet d'accentuer les inégalités en santé. Alors, devant ce constat, trois professeurs du département de nutrition de l'Université de Montréal, Malek Batal, Chantal Bémer et Valérie Marcil, ont mis sur pied cette clinique Santé à bord, qui est une unité mobile de recherche et d'intervention en nutrition pour aller à la rencontre des communautés en région éloignée. Alors, avec cette clinique laboratoire tout équipée, on veut aller vers les gens, comprendre leur réalité et intervenir adéquatement, nous dit Malek Batal, qui est l'instigateur du projet. Alors, on nous présente trois projets phares qui lanceront l'unité mobile. Le premier, nourrir la santé des Premières Nations. Alors, on explore les liens entre la sécurité alimentaire, l'accès aux aliments traditionnels et la santé des jeunes des Premières Nations qui vivent dans les réserves. Touchés par des taux élevés d'insécurité alimentaire, d'obésité et de diabète, ces communautés pourront désormais être aidées sur le terrain. L'unité mobile, c'est l'outil qui permettra d'aller sur place, de recueillir des données, mais aussi de créer des liens et les aider, en fait, à trouver peut-être une alimentation plus saine. Le deuxième projet, c'est comprendre les maladies rares. Alors, la professeure titulaire et vice-doyenne aux sciences de la santé, Chantal Bémer, étudie l'acidose lactique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une maladie métabolique héréditaire rare. Son projet vise à mieux comprendre les habitudes de vie et les profils biologiques des enfants atteints et de leurs proches pour que des interventions mieux adaptées soient conçues. Finalement, le troisième projet, accompagner les jeunes atteints de cancer. Avec le projet VIE, c'est-à-dire valorisation, implication, éducation, on cherche à améliorer la santé cardio-métabolique et la qualité de vie des enfants et adolescents pendant et après un cancer. Souvent marqués par des séquelles liées au traitement, ces jeunes bénéficient d'interventions personnalisées alliant nutrition, activité physique et soutien psychosocial. Alors, grâce à l'unité mobile, des interventions pourront être menées directement auprès des familles dans leur milieu de vie. Cette approche, en plus de réduire leur fardeau, transforme l'expérience de soins. Alors voilà des recherches des plus inclusives, Hélène.
On en veut plus de ce type de clinique sur roue. Yvan, c'est à vous.
Oui, moi je continue du côté du Centre d'intégration à la vie active. Après l'article que je viens de lire, on pourrait penser que le CIVA offre des activités que pour les jeunes, et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas non plus le cas d'activités strictement sportives. Alors, je suis présentement sur leur site, c'est le civa.qc.ca. Dans la programmation, d'ailleurs, pour la programmation, s'adresse aux membres de l'organisme. Ça coûte 25 $ par année pour être membre de l'organisme. Ça veut dire 2,5 $ chaque mois.
Un prix d'amis.
Oui, de nos jours, il n'y a pas beaucoup de services qui ont un prix aussi accessible. Alors, on parle de boccia, évidemment, on en a parlé tantôt, de Power Chair Soccer. Power Chair Soccer, c'est un fauteuil roulant motorisé et il faut être un peu maniaque pour faire ça. Il y a une salle de conditionnement physique, il y a du yoga, mais il y a aussi de l'art thérapie, du yoga virtuel, du bain libre, de la boxe adaptée, de la méditation pleine conscience, des groupes de discussion et de co-création. Alors, on peut voir facilement que le SIVA offre une bonne palette d'activités de tout ordre. Alors, j'inviterais les gens qui sont intéressés par ce type d'activité, ceux qui vivent en situation de handicap physique, de jeter un coup d'œil sur cette programmation-là. Je pense qu'ils peuvent y trouver leur compte.
Tout à fait d'accord avec vous. Alors, c'est pas compliqué comme adresse, siva.qc.ca. Capsule linguistique avec vous, Monique. Rencontrer quoi ou qui?
Ben oui, hein, on entend souvent « Avez-vous déjà rencontré un problème? »
Ouais.
Bon, ça, c'est sous l'influence de l'anglais. On peut dire qu'on abuse vraiment de cet usage pour le verbe « rencontrer » parce qu'il y a tellement d'autres façons d'énoncer la chose. On fait face à un problème ou on a un problème ou on peut aussi éprouver des difficultés. Malheureusement, il n'y a peut-être pas assez de personnes qui soulignent ces mauvais usages. Et un autre, en fait, on peut également se souligner l'expression « être rencontré par », qui n'est pas recommandée. Au lieu de dire « un homme aurait été rencontré par les policiers », ben on pourrait dire « un homme aurait été interrogé par les policiers ». Et puis, on pourrait aussi éviter la forme passive et dire tout simplement « les policiers auraient interrogé
tout
un
à
homme
fait.
Ce matin ».
Oui, merci beaucoup, Monique. Et vous parliez de rencontrer un problème. On entend beaucoup aussi le mot « enjeu ». On dirait qu'on a peur de dire « problème ». Quand on utilise « enjeu » pour « problème », « enjeu », il me semble que c'est utilisé à toutes les sauces. Mais c'est un bon mot, là. Mais
oui,
je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des enjeux, on a des enjeux, on a des enjeux.
C'est vrai. Ouais, je m'attardais à ça, Hélène.
Merci, ma chère. Et Yvan, pour terminer.
Oui, pour terminer, justement, c'est une bonne façon de présenter ce sujet-là. Parce que j'ai terminé, effectivement, ce programme d'entraînement. Il y a une heure environ. C'est un programme qui a été conçu pour les personnes qui ont eu un problème cardiaque.
Comme vous?
Donc, comme moi, j'ai eu un infarctus au mois de mars dernier. Alors, le Centre EPIC propose, en collaboration avec l'Institut de cardiologie, propose un programme d'entraînement, un programme de réadaptation qui dure 3 mois, 24 sessions d'une heure, encadré par des kinésiologues. On fait à peu près une demi-heure d'exercice cardio et après ça, une vingtaine de minutes de musculation. On est encadré. Il y a une progression dans l'effort qu'on donne à toutes les fois. Et dans mon cas, ce que j'en ai retiré particulièrement, c'est après un accident cardiaque comme celui que j'ai connu, je ne savais pas quelle était ma nouvelle limite. Est-ce que j'avais des limites? Et j'étais un peu sur les freins, autant au niveau de la marche qu'au niveau du vélo, des choses comme ça. Mais je voulais continuer à faire de l'activité physique. C'est vraiment dans mon sang. Alors,
et c'est tellement bon pour la santé aussi.
Aussi. Mais moi, je le pratique aussi par pur plaisir.
Ouais.
Et j'ai trouvé que j'en avais pas de limite, que je pouvais continuer à faire de l'exercice physique comme je le faisais auparavant. J'ai le nombre de pulsations que je faisais par exercice, puis je voyais très bien que mon cœur tenait bien la route, puis que ça fonctionnait bien.
Non, ben c'est une bonne nouvelle.
Avec ce programme-là aussi, on rencontre une diététiste. Donc, on regarde aussi notre alimentation parce qu'il faut diminuer la viande rouge, il faut diminuer le sel. Le chocolat au lait, effectivement. Alors, c'est vraiment un programme qui nous permet de se rassurer avant de reprendre nos habitudes de vie. Puis nos habitudes de vie vont avoir changé de toute façon en 3 mois. Alors, si jamais vous connaissez des gens qui ont un accident cardiaque, c'est peut-être un programme à considérer.
Oui, alors on peut trouver les informations sur...
Au centre EPIC puis à l'Institut de cardiologie.
Parfait. Bien, Yvan, vous ne serez pas avec nous la semaine prochaine?
Non, parce qu'on me mesure justement suite au programme. Alors, je ne serai pas disponible jeudi prochain.
On vous comprend. On se retrouve donc dans deux semaines. Monique, vous y serez?
Oui, je serai là, Hélène, avec plaisir.
Merci beaucoup à vous deux. Portez-vous bien la semaine prochaine pour Monique, puis à Yvan dans deux semaines, comme je le disais.
Tout ça sur Canal M.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Gagner le gros lot. Des fois on tourne autour du pot. On choisit chacun des mots. Ou on est là avec nos gros sabots. On en dit trop.
C'est pas nouveau.
On attend l'heure de l'apéro pour pouvoir prendre sa mollo. Avec des amis, il n'y a jamais rien de trop beau. On suit le flow.
C'est pas nouveau.
Plus ça change, plus c'est pareil. Plus ça change. Faut séparer le vrai du faux. On se fait des scénarios comme des complots.
C'est pas nouveau.
Des fois on grimpe dans les rideaux. On a peur de tomber de haut. Une tempête dans un verre d'eau. Ça blesse l'ego.
C'est pas nouveau.
On peut jouer les super-héros. Patiner sur le premier trio. On se dit coudon, on est bien dans sa peau. De l'amour, y'en a jamais trop.
C'est pas nouveau.
Plus ça change.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Le spectacle est enceinte. et pourtant, je ne suis qu'un chanteur. J'ai peur de quoi? Je ne sais pas. Bonsoir tout le monde, ça va? Non, moi c'est pas mon jour. J'ai peur d'oublier mes paroles. J'ai peur de la voix, de me tromper dans mes accords.
Show. C'était Lumière qui chantait Glam. Et tout juste en début de demi-heure, on a écouté Midi Sand et Edith Butler dans la chanson « Ça date pas d'hier ».
Oui, ça met de la joie dans cette journée plutôt grise. La Fanfare pour aussi met de la joie. Ce grand orchestre libre et festif va célébrer 30 ans de musique au Théâtre Outremont dès demain. Bien, une seule date, le 28 novembre. Fanfare pour un bel ensemble tissé serré par l'amitié, l'esprit de famille. Et aussi, c'est un retour aux sources pour plusieurs des membres comme Jean de Rome, porte-parole de la Fanfare, qui fréquentait le Théâtre Outremont dans sa jeunesse. Le Théâtre Outremont, c'était son cinéma de quartier. Alors, demain, une belle soirée festive, le 28 novembre, avec la Fanfare pour bon 30e à cette Fanfare. Il y a également une autre activité qui va attirer l'attention de ceux et celles qui aiment les jeux, comme vous, Mathieu. Pas le jeu là, comme on trouve dans l'Auto-Québec, le casino, etc., mais c'est plutôt les jeux de société. 8e édition du Salon du jeu de société qui aura lieu à partir de demain jusqu'au 30 novembre au marché Bon Secours, un événement qui est devenu un classique pour les familles, le public de tout âge au fil des ans, qui va présenter des tests de jeux en primeur, des rencontres avec les éditeurs et créateurs et des moments inoubliables à partager. Le Salon du jeu attire chaque année des milliers de visiteurs autour des plus récentes innovations, des classiques intemporels du jeu de société. Plus de 175 tables seront animées, pouvant faire jouer simultanément plus de 650 participants. Alors, à partir de demain, le Salon du jeu de société de Montréal au marché Bon Secours dans le Vieux-Montréal. Un film dont tout le monde parle, film québécois qui reçoit une très, très bonne critique, Les Furies, première comédie sportive québécoise au féminin qui sera à l'affiche partout au Québec demain. Il y a des représentations qui ont lieu dans plusieurs cinémas dès ce soir. Film scénarisé par Gabriel Côté qui joue également dans son film et réalisé par Mélanie Charbonneau. Et prenez note que le jeudi 4 décembre à 18h30, 35 cinémas du Québec invitent les cinéphiles à vivre une expérience assez inusitée, un ciné-tricot autour du film. Le concept du ciné-tricot séduit de plus en plus les Québécois et les Québécoises. Il s'agit de projections conviviales où les lumières demeurent légèrement tamisées pour permettre aux participantes et participants de tricoter pendant la séance. L'initiative est soutenue par Phil et Film, qui a déjà connu un succès retentissant avec ses ciné-tricots organisés depuis le début de l'année. Il s'agit d'un premier événement de cette ampleur à être organisé dans les salles de cinéma du Québec, parce que ça a commencé à Montréal et puis maintenant, ça se répand. Les Furies comptent sur une impressionnante distribution. Je n'ai pas le temps de tout vous nommer les comédiens et comédiennes qui font partie de ce film, mais je peux vous dire que oui, Gabriel Côté, qui a scénarisé Les Furies, en fait partie. Anne-Élisabeth Bossé, France Castel, Juliette Gosselin, Aurélia Arendi-Lompré, également Débiline Chouette, Sandrine Bisson, Nathalie Doumar, il y a aussi des gars, Antoine Pilon, Maxime de Cotteret, et Antoine Bertrand. Alors, c'est à voir Les Furies. Si vous avez envie de vous plonger, de vous faire emporter par l'esprit des fêtes, dimanche 30 novembre à compter de 16 heures, l'église Saint-Pierre-Apôtre va vibrer encore une fois sous la direction de Marie-Claire Cousineau, alors que les petits violons présenteront leur concert de Noël, un rendez-vous qui est prometteur, qui sera certainement lumineux. Le comédien Renaud Paradis présentera les œuvres au programme avec une grande sensibilité musicale, lui qui est aussi un homme qui fait de la musique, qui chante. L'artiste invité, Olivier Arsenault, gigueur et percussionniste, fera résonner des rythmes traditionnels dans un échange vivant avec les cordes au programme du Antonin Dvorak. Les canons de Pachelbel, oui, qu'on connaît très bien. Des airs de Noël orchestrés par Jean et Nicolas Cousineau, comme Sa Berger, D'où viens-tu bergère? Et le concert se conclura sur des partitions enlevantes du répertoire folklorique de Jean Cousineau. Un concert qu'on qualifie d'intime et de festif pour entrer tout doucement dans le mois de décembre. Les petits violons, concert de Noël, c'est le dimanche 30 novembre à 16h à l'église Saint-Pierre-Apôtre qui est située au 1201 rue de la Visitation. Et l'entrée est libre, contribution suggérée, 20 $. Après avoir remporté le prix des libraires en 2019 avec « Ouvrir son cœur », Alexis Morin propose un tout autre genre de livre. C'est un roman qui s'intitule « La maison Durand Lynch ». Alexis Morin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Alexis. Comment vous qualifiez votre nouveau roman?
On appelle ça un roman gothique, en fait. C'est le terme qu'on va utiliser qui est le plus général, mais tu sais, ça emprunte aussi à d'autres genres comme la weird fiction, comme le fantastique, puis un peu au coming of age aussi.
La weird fiction, what's that?
C'est un courant littéraire, oui, qui est pas mal issu du monde anglophone, qui emprunte à toutes sortes de genres. Notamment donc l'horreur, le fantastique, qui les mélange aussi avec la littérature dite un peu plus blanche, qui déconstruit les structures puis qui dans le fond vise à créer souvent un sentiment d'angoisse existentielle, oui. Si vous voulez, tu sais, oui. Ça cultive le mystère, puis ça donne pas, c'est un fantastique qui donne pas de réponse, qui ne veut pas s'expliquer. Et qui, donc, c'est ça, nous fait sentir notre petite taille dans l'univers, si vous voulez.
Oh oui, on est en plein mystère, puis c'est vrai que, moi, en tout cas, j'ai eu peur à certains endroits dans votre livre,
ah oui?
Dans certains passages. Est-ce que vous pouvez nous tracer les grandes lignes de l'histoire de la maison Durand Lynch?
Oui, bien sûr. Dans le fond, ça commence un soir de 1994, au solstice d'été, quand un petit garçon, qui s'appelle Vincent McCabe, entend raconter par sa tante autour de feu de camp l'histoire de la disparition de sa grande sœur à elle, donc en 1959. Ça lui met la puce à l'oreille et ça fait en sorte qu'il va se demander si son propre frère qui est mort en bas âge pourrait pas encore être dans la forêt dans laquelle ils vivent, parce que évidemment l'histoire racontée par sa tante, c'est une histoire de fantôme.
Donc, Marie-Lou qui parle de sa sœur Anne-Claire.
C'est ça. C'est une histoire de fantôme, donc qui en cache une deuxième. À la suite là, de cette de, 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 de ce récit-là, Vincent va donc décider de partir à la recherche peut-être du fantôme, mais peut-être pas dans la forêt, et il va se perdre pendant 3 jours.
Oui, c'est là que j'ai eu peur, surtout.
Ah oui, ben écoutez, c'est moi, je me suis un peu fait peur aussi en le faisant.
Ah oui?
Ça vient de souvenirs assez profonds aussi de se perdre quand on est enfant dans la forêt. Je me suis jamais perdue pendant 3 jours, mais je me suis déjà perdue, tu sais, pendant 3 heures. Puis,
ah, 3 heures, c'est quand même long, hein?
Quand même. Mais donc, c'est ça, ça va. Ces 3 journées-là de solitude intense vont vraiment changer sa vie et lui apprendre toutes sortes de choses dans l'univers où il vivait, qui croyait vraiment pas possible. Puis bon, ça va marquer la suite de son existence, puis sa quête aussi là, de la vérité au sujet de sa famille.
Oui, lui qui a perdu son frère, son petit frère, hein, Samuel. On dira pas nécessairement dans quelles circonstances,
non,
là, mais...
Mais c'est ça, mais c'est une tragédie qui va avoir été marquante pour toute sa famille au complet et dont il n'entendra jamais, disons, le fin mot. Personne ne veut vraiment lui expliquer ce qui s'est passé pour toutes sortes de raisons. Puis c'est aussi un peu là-dessus le livre sur les secrets de famille, sur les histoires qu'on se raconte, puis comment elles nous façonnent, disons, qu'on les connaisse bien ou pas.
D'où est venue l'envie d'écrire ce genre d'histoire?
Ben, quand même une longue pratique de la lecture de la littérature de genre. Je suis, tu sais, j'ai fait des études en littérature, mais mon premier grand amour, c'est vraiment la fiction. Puis, tu sais, la fiction, le fantastique, la SF, l'horreur, vraiment, là, mon écrivain préféré pendant tout mon secondaire, c'était Stephen King. Donc, tu sais, on parle de récits d'horreur. Teinté de surnaturel, ou est-ce qu'il y a un grand souci des personnages, ou est-ce que les vies là, des personnages sont vraiment racontées de façon étroite, ou est-ce qu'on est avec eux, ou on apprend à les connaître en profondeur. Ça a toujours été ça qui m'a importé le plus. Puis, évidemment, il y a aussi le lieu, la forêt elle-même, Laurent Lynch, la petite ville de Wickford Mills, qui a été un peu... inventé à partir de mes souvenirs de ma propre ville natale qui est Windsor dans les Cantons de l'Est.
Et la maison Durand Lynch est présentée comme le premier volume d'un cycle. Est-ce que vous aviez dès le départ une vision de cet univers ou c'est un monde qui se révèle au fur et à mesure de l'écriture?
Les deux, je dirais. Il y a vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires en réserve. Je sais comment se termine mon cycle, mais à chaque fois que j'écris, il y a des choses aussi qui s'inventent, qui apparaissent. Puis c'est évidemment, c'est quand ça apparaît, je peux pas faire autrement que de m'en saisir puis d'écrire là-dessus aussi. J'ai toujours voulu écrire une série. Évidemment, on commence pas là, tu sais, dès les premières pages d'une histoire à se dire ah oui, ça va faire 2000 pages. Mais ça a toujours fait partie de mon ADN de lectrice puis d'écrivaine. J'aime ça les histoires longues, puis j'aime ça rester avec les personnages puis dans les univers le plus longtemps possible.
Et est-ce que ça a été un défi de travailler le passage d'une temporalité à l'autre sans perdre le fil, le souffle narratif, là, parce que l'histoire s'ouvre, on est en décembre 99, ensuite en juin 94, en juin 83. Ça commence en décembre 99 et ça se termine en décembre 99.
Exact, c'est ça. Tu sais, dans le fond, ça commence chronologiquement en juin 1994, mais c'est vrai que le livre il est fait comme une sorte de...
Bien, vous dites que ça commence en juin 1994, mais la faute, c'est décembre 1999.
Oui, c'est ça. Chronologiquement,
Oui, je comprends. OK.
C'est ça. Mais oui, ce travail-là sur la structure temporelle, ça a été un défi, certainement. Puis, l'alternance entre les focalisations aussi représente des défis parce que on veut pas décrire plusieurs fois des choses que les lectrices et les lecteurs ont déjà vues décrites en amont, mais il faut quand même respecter la perspective de chacun des personnages. Mais en fait, ça a surtout été un grand plaisir technique puis une manière vraiment productive de créer des personnages vraiment profonds, puis de marquer la différence entre l'enfant de 11 ans et par la suite l'adolescent de 16 ans qui devient comment faire pour inventer, comment faire pour représenter cette personne-là, puis vraiment faire sentir que c'est la même personne, mais que 5 années ont passé, là, il y a toutes sortes de procédés que j'ai dû inventer, puis de détails que que j'ai ajoutées un peu partout pour que cette continuité-là se fasse sentir. Puis c'est vraiment le fun.
Et c'est vraiment le fun aussi que vous ayez pensé à mettre les personnages. C'est la famille McCabe, c'est comme ça que vous prononcez
ouais.
McCabe, OK? Qui, parce qu'elle est nombreuse, cette famille, et on a
oui.
tous les noms avec les années de leur naissance et de leur mort si les personnes, les personnages sont
oui.
morts. Alors, moi, j'y retournais à l'occasion, là, parce que c'est quand même très, très touffu. Mais
oui.
les protagonistes, ce sont des adolescents. Pourquoi avoir choisi des adolescents?
L'enfance et l'adolescence, c'est vraiment des périodes de la vie qui me fascinent parce que... C'est vraiment la période de toutes les premières fois, puis c'est un peu ça aussi qui est représenté dans le livre. Donc, je sais pas moi, le premier party, la première blonde, les premières fois qu'on va pouvoir s'éloigner de la maison, puis aller se promener seul.
C'est pas une période ennuyante.
Non, c'est ça. Tu sais, puis c'est aussi que comme chacune de ces expériences-là va venir façonner. L'identité, tout est plus intense, tout est plus gros, tout est absolu d'une certaine manière quand t'es très petit. Puis il y a sans oublier aussi la première fois en fait qu'un enfant ou un adolescent s'aperçoit que ses parents, que sa famille sont pas ce qu'ils croient être.
Ah oui.
Que les adultes sont pas parfaits, sont pas infaillibles, au contraire. Et tu sais, cette réalisation-là, quand on la fait trop tôt, ça peut faire sentir assez seul au monde.
Dans une entrevue que vous avez accordée à Chantal Guy de La Presse, qui parle de vous comme une écrivaine de l'atmosphère, je trouve ça très beau, vous avez mm-hmm. dit « Être romancière, c'est la chose que je voulais le plus depuis vraiment longtemps. Les poèmes et le récit de soi, c'était comme des détours, comme des explorations. J'ai vraiment fait exprès cette fois pour que personne ne puisse me demander si c'était basé sur ma vie. » Est-ce que c'est une question qui vous dérange pour vrai?
C'est-à-dire... Pas dans l'absolu, évidemment. C'est, je vous dis spontanément que Wickford est basé sur Windsor, donc il y a quand même des aspects là, tu sais, que ça me dérange pas d'explorer, ça me dérange pas d'en parler, mais si vous saviez en fait la différence entre la réception d'un récit de soi et la réception d'un livre de fiction, c'est
deux
tellement
mondes.
Plus léger, c'est tellement plus libre, c'est tellement plus ludique, parce que c'est vrai que quand on travaille, quand on fait du récit de soi, les questions vont porter sur la vie personnelle, en fait, la personne qui fait l'entrevue, soit de mauvaise volonté ou pas, c'est que pour nous aussi, le récit de soi, c'est vraiment un produit de l'expérience, c'est souvent un produit de la souffrance, on en parle, et donc c'est toujours plus difficile. Alors que là, je peux explorer toutes sortes de dimensions de l'expérience humaine. Et ça vient pas nécessairement me toucher personnellement. Mmh. Et quand j'en parle, je peux en parler avec un certain détachement, ce qui n'empêche pas que j'en parle avec autant de sérieux que dans un récit de soi, puis probablement peut-être autant de justesse, je sais pas. Mais c'est pas du tout la même chose. Puis je suis vraiment contente là, d'être de l'autre côté là, pour ce livre-ci là, en ce moment.
Vous parlez de récit de soi. Est-ce que c'est l'équivalent de l'autofiction?
Il y a toutes sortes de oui, mais à peu près là, c'est il y a des petites nuances techniques là. Dans l'autofiction, on va se permettre un peu plus d'écart par rapport à ce qui est vrai, peut-être, alors que en tout cas dans le récit de soi ou le roman autobiographique tel que moi je l'ai pratiqué, le pacte de vérité était très contraignant. Je voulais vraiment, puis c'est Ouvrir son cœur à l'époque, c'était un livre qui s'interrogeait aussi vraiment beaucoup là-dessus, sur la possibilité de dire la vérité, sur la possibilité de reconstituer ce qui a été vécu, sur la même juste, est-ce que c'est possible de restituer la vérité d'une expérience de vie ou pas? Pour ce que j'en comprends, l'autofiction va pouvoir toucher, tu sais, des fois à des problématiques comme ça, mais il y a des écrivains d'autofiction qui vont aussi... complètement se permettre de sortir de ça et d'inventer des intrigues, d'inventer des personnages, ainsi de suite.
Le récit de soi, est-ce que ça veut dire que vous avez mis une croix sur ce genre?
Pas nécessairement, mais en ce moment, disons que je sais que je vais en avoir pour une couple d'années à être occupée avec le cycle de Wickford Mills.
Alexis Morin, vous êtes écrivaine et aussi directrice éditoriale au Cartanier. Comment ces deux pratiques s'influencent ou se nourrissent ou parfois se nuisent peut-être?
Je dirais pas que ça se nuit. En tout cas, personnellement, moi, mon but dans la vie, c'était de faire des livres, et plus je passe de temps en fait auprès des livres, plus je suis heureuse. Donc, il n'y a pas vraiment de nuisance, là, mettons, à part vraiment là, au niveau de l'horaire, je dirais, de la gestion du temps. Sinon, tout le temps passé à lire les livres des autres, à les interroger, à accompagner des autrices dans la publication, ça m'apprend des choses à tous les jours. Puis j'allais dire oui que moi aussi j'ai un éditeur, j'ai absolument besoin, c'est ça, ça empêche pas comme autrice, même si je fais ça dans la vie, ça m'empêche pas d'avoir besoin de ce même accompagnement-là au jour le jour, parce que ce qui est beau avec notre métier, c'est qu'on est en mesure de pointer ce que les autrices et les auteurs voient pas nécessairement eux-mêmes dans leur manuscrit, de poser des questions qui leur aurait pas traversé l'esprit, puis mon éditeur fait ça pour moi aussi.
Un troisième œil, un regard extérieur important.
Oui, c'est ça. Peut-être que je suis capable d'amener mes textes, les avancer un petit peu plus que d'autres, mais encore là, c'est pas du tout une règle générale. Il y a des gens, il y a des auteurs et des autrices qui travaillent chacun de leur côté, qui soumettent des manuscrits vraiment impeccables. Il n'y a pas de règle toute faite. Là.
Et comme dernière question, même s'il me reste plus de temps, Alexis, qui vous a donné le goût des mots?
Oh là là, ça c'est une... Je viens d'une famille, les Morins, où est-ce que les gens, tout le monde était là, il y avait des discussions vraiment intenses à table depuis que je suis toute petite. J'ai appris avec ma famille à discuter, à argumenter, à raconter des histoires dès mon plus jeune âge. Puis il y a aussi évidemment là, ma mère, qui était une lectrice vraiment vorace, que j'ai dû lire pendant toute mon enfance, qui allait à la bibliothèque, qui ramenait des piles de livres énormes. Donc, ça vient là, du plus loin.
Modèle inspirant, donc.
Ouais.
Ça commence dans la
vraiment.
Famille pour vous. Alexis
Absolument.
Morin, bien, bravo pour ce livre. Est-ce que vous planchez déjà sur la suite?
Absolument. Je travaille à tous les jours là-dessus.
Bien, bon travail. La Maison Durand Lynch, qui est très bien reçue, en tout cas par la critique, et j'imagine que les lecteurs et lectrices sont allés à votre rencontre au dernier Salon du livre?
Ah oui, il y avait beaucoup de monde. C'était très intense. Je suis vannée, mais vraiment ravie.
Bon, alors reposez-vous bien, puis continuez d'écrire aussi.
Et, merci beaucoup.
Comme je le disais, j'ai eu peur, mais c'est une peur qui fait du bien. C'est très bien écrit. Merci à vous. Et je rappelle que La Maison Durand Lynch est publiée au Cartanier. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
C'est Denis Martin qui sera là lundi. Ici Hélène Denis. Merci d'avoir été là. Merci Mathieu. À mardi.